affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Au cours de notre émission de ce jour, nous allons nous préoccuper du fait religieux dont chacun peut mesurer, aujourd'hui encore, combien il tient une place très importante dans la vie et l'histoire des hommes. Plus précisément, nous allons nous intéresser aux vérités et erreurs religieuses. Sujet épineux, y a-t-il des vérités en matière religieuse? Les religions sont-elles susceptibles d'être dans la vérité ou dans l'erreur? Et si oui, avec quels instruments pouvons-nous, cognitifs, intellectuels, pouvons-nous répondre à ces questions? Dieu merci pour y répondre. Nous ne sommes pas seuls, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Jean Béchler qui vient de consacrer à ces questions un ouvrage très dense, titré « Enquête d'absolu, vérité et erreur religieuse », publié aux éditions Hermann dans la section « Philosophie ». Je m'empresse de préciser que cette œuvre prolonge et complète l'œuvre non moins dense de Jean Béchler, qu'on pourrait définir comme une sorte d'anthropologie générale. Je précise, Jean Béchler, que vous êtes bien entendu membre de l'Académie des sciences morales et politiques, mais aussi philosophe, historien et sociologue, et ce n'est probablement pas de trop pour répondre à cette question, n'est-ce pas?
En effet, je pense que tout ce qui est humain ne peut être traité scientifiquement que si on conjoint la philosophie, la sociologie et l'histoire, pour des raisons qui tiennent à la matière étudiée. Il faut d'abord savoir de quoi on parle. Depuis Socrate, on sait que ça ne va pas de soi, c'est loin. Donc on a besoin de concepts, et le concept c'est même la philosophie. L'histoire, la matière historique n'est faite que d'histoire singulière, et par conséquent il faut faire de l'historiographie. Mais pour essayer d'expliquer, il faut comparer, afin de repérer les facteurs qui expliquent pourquoi tel possible a été réalisé, et essayer de peser les facteurs les uns par rapport aux autres. Et donc, ce n'est pas un hasard si ces trois disciplines fondamentales ont émergé à travers le temps pour essayer d'y comprendre quelque chose aux affaires humaines infiniment compliquées. Il m'arrive d'envier les astrophysiciens ou les biologistes, c'est beaucoup plus simple ce dont ils ont à traiter.
Alors, vous me disiez en préparant cette émission que, au-delà de ces trois disciplines, l'ensemble de votre œuvre avait pour point de départ initial une intuition, celle que l'histoire humaine procédait par problème-solution. C'est bien cela.
Voilà, effectivement, tous mes travaux ont reposé sur cette hypothèse qui est une intuition, mais les hypothèses sont des intuitions extrêmement simples. Je l'exprimerai dans mon vocabulaire d'aujourd'hui. Nous sommes une espèce libre, biologiquement, au sens où nous avons inventé notre humanité, donc nous sommes une espèce problématique. Et toute la matière historique est faite des produits, des problèmes que nous nous posons et des solutions que nous essayons d'apporter à ces problèmes. Les problèmes peuvent être mal ou bien posés, de même que les solutions peuvent être bonnes ou mauvaises. Et par conséquent, dans la matière historique, il y a de tout, y compris des choses fort désagréables. Mais cela permet, me semble-t-il, ça donne une assise, un point d'Archimède extrêmement solide pour trouver des moyens d'expliquer pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Alors, en tout cas, ça a été mon ambition.
Alors peut-être est-ce une remarque trop marquée par le matérialisme qui imprègne peu ou prou l'époque, mais ce cheminement problème-solution, autant on arrive immédiatement à le saisir pour ce qu'il s'agit des problèmes très prosaïques ou matériels, comme, je ne sais pas, se nourrir. Dans votre œuvre, par exemple, il y a des ouvrages consacrés à l'économie, à la politique. Vous avez consacré beaucoup de temps à l'étude de la guerre. Pour tout cela, problème-solution, on saisit assez facilement. S'agissant de l'absolu ou du fait religieux, c'est quand même plus complexe, non ?
Plus complexe, je ne suis pas sûr, mais si vous voulez, si j'ai consacré beaucoup de temps et de travaux et de peine au fait religieux, c'est parce qu'il s'inscrit dans ma construction générale à l'intérieur de ce que j'appelle l'ordre des fins dernières.
Vous avez consacré un ouvrage,
voilà, titré. Et donc, ça me permet de préciser tout de suite que ce livre « Enquête de l'absolu » est un volume parmi quatre parus, dont le premier, qui a lancé, si vous voulez, l'enquête, s'appelle effectivement « Les fins dernières ». Ensuite, il y a deux ouvrages de pure métaphysique, « Le devenir et l'être ». Et donc, maintenant, j'ai entamé la construction de la théorie du religieux, de la religion et des religions. Alors ça, c'est la dimension philosophique, et je prévois un volume sur la dimension sociologique et un volume sur la dimension historique des phénomènes religieux. Alors, comment dire, nous avons, en tant qu'espèce libre, un problème qui nous est adressé par le fait que nous sommes un être conscient. Au sens de, nous pouvons prendre conscience de. Nous pouvons prendre conscience de notre nature et de notre condition. Alors, je vais à l'essentiel. La prise de conscience qui finit ou qui doit finir par émerger, je ne dis pas dans chaque individu, bien entendu, mais dans quelques-uns, et apparemment dans toutes les cultures, il y en a quelques-uns qui se posent cette question, mais non pas pourquoi y a-t-il plutôt quelque chose que rien, mais y a-t-il quelque chose de stable qui se cache ou qui se trouve derrière tout ce qui change. Parce qu'en effet, tout change. Enfin, si vous voulez, il y a commencé par nous. Nous sommes éphémères, nous ne faisons que traverser la vie. Autrement dit, en langage philosophique, tout est contingent. Autrement dit, rien ne trouve sa raison d'être en lui-même. Tout dépend de quelque chose d'autre qui lui est extérieur. D'où un syllogisme extrêmement simple. S'il n'y avait que du contingent, il n'y aurait rien. Comme il y a quelque chose, il y a forcément du non-contingent, décidant d'appeler absolu le non-contingent. C'est le point de départ des enquêtes éthiques de l'humanité à la recherche de ses fins dernières, me semble-t-il.
Alors face à cette question qui évidemment est de l'ordre du vertige, d'ailleurs vous disiez quelques individus se la posent dans telle ou telle ère culturelle ou à chaque époque. En fait, je pense que chaque personne y est confrontée, mais souvent l'évacue faute de pouvoir. Creuser.
Je suis pas sûr que l'angoisse métaphysique soit très largement répandue. D'ailleurs, personnellement, je ne suis victime d'aucune angoisse métaphysique. Je me veux et je me présente et je me considère comme un homme de science, enfin, qui essaye d'expliquer pourquoi les choses sont comme nous constatons qu'elles sont. Alors, il se trouve que je ne me suis pas occupé du cosmos, si vous voulez, ou de la matière inanimée, ni de la matière vivante, mais pour des raisons que j'ignore complètement, des affaires humaines. C'est ça qui m'a passionné, qui me passionne depuis tout de même deux bons tiers de siècle, enfin, maintenant.
Alors, puisque, même s'il est, dans sa forme la plus accomplie, réservé à quelques individus plus disposés à cela ou plus éclairés ou ayant les outils nécessaires, cette quête d'absolu, quelle forme peut-elle prendre dans l'histoire humaine? Elle est forcément variée, on sait qu'il y a plusieurs religions, il y en a toutes sortes. Comment catégoriser tout cela?
Il y en a sinon une infinité, mais il y a une très grande variété. Il suffit de lire Mircea Eliade pour s'en persuader. Et mon ambition a été, en l'occurrence, de mettre un peu d'ordre dans ce fouillis apparemment inextricable, et donc de trouver des raisons expliquant pourquoi c'est ainsi. Alors, Repartons de le contingent implique l'absolu. Il se trouve que, pour des raisons qui, somme toute, ne peuvent être que constatées, trois interprétations de l'absolu sont possibles. Vous avez un premier absolu que j'appelle séculier, le devenir, qui a été en particulier développé dans la philosophie chinoise, qui consiste tout simplement à poser que le réel absolu est l'ensemble en devenir perpétuel de devenants éphémères. Autrement dit, il n'y a ni point d'origine, ni point d'aboutissement. Et tout est interne, si vous voulez, au réel. Et tout dépend de tout et de cela de manière perpétuelle, indéfinie. Si on pose cet absolu, eh bien, il suffit, à partir de là, se consacrer à la science pour expliquer pourquoi l'univers est comme il est, pourquoi les choses humaines sont comme elles sont. Et il y a toute une série d'éthiques séculières qui ont été développées en Chine, en Inde, mais également en Grèce. Ça a été en grande partie perdu de vue en raison de la christianisation de l'Europe, mais des philosophies comme le stoïcisme ou l'épicurisme sont des éthiques séculières, d'un côté. De l'autre, vous avez une définition de l'absolu où il y a une distinction radicale entre l'absolu et le contingent. Alors que du côté du devenir, non, tous les devenants sont le devenir, et réciproquement. Deux interprétations sont très curieusement possibles. Dans l'une, celle qui nous est de loin la plus familière, on a un Dieu personnel créateur de créatures contingentes. Bon.
Adam et Ève.
Laissons Adam et Ève pour le moment de côté, enfin, si vous voulez. Il y a une autre interprétation qui, très curieusement, l'a emporté à l'est de l'Indus, où l'absolu inhabite des contingents. Autrement dit, c'est un absolu impersonnel qui est immanent aux choses qu'elle ne produit pas. Donc il y a une sorte de combinaison, d'un côté le contingent est emporté dans un devenir perpétuel, mais à peine de la consistance suffisante, il existe mais sans trop exister. Et d'un autre côté, il y a un absolu, mais qui n'est pas détaché, qui n'est pas extérieur, qui est au cœur du contingent. Alors de tous les contingents, uniquement des êtres humains, des animaux, on peut discuter. Cette manière de percevoir les choses apparaît très tôt en Inde, très très tôt, dès les débuts du premier millénaire. Enfin, dans les Védas, c'est à peine esquissé, mais dès les Upanishads, donc à partir du 8e, 6e siècle, vous savez, la chronologie en Inde est quelque chose de très délicat à manier, cette position a été retenue et a été développée. Alors, c'est quelque chose que nous autres occidentaux avons du mal, si vous voulez, à admettre comme étant une religion, parce que pour nous, il va de soi qu'une religion pose un dieu. Ben non, non, il y a d'autres formes de religion. Donc, mon hypothèse est que les quêtes humaines de l'absolu doivent nécessairement déboucher tôt ou tard sur la mise en évidence, la problématisation, etc., de ces trois absolus. Alors, laissons l'absolu séculier de côté, j'en ai traité dans les fins dernières. Et dans ce volume sur la religion, eh bien, je retiens les deux religions fondamentales, mais avant cela, il faut étudier le religieux en tant que non séculier. Quels sont ses caractères fondateurs? Ça, c'est une analyse vraiment métaphysique, philosophique. Ensuite, la religion. De quoi est forcément fait une religion? Et enfin, les religions, les deux religions, qui, pouvant se réclamer d'un fondement métaphysique parfaitement rationnel, peuvent revendiquer d'être dans le vrai. Ça ne veut pas dire que ce sont les vraies religions. Elles peuvent être vraies. Elles peuvent se réclamer d'un fondement métaphysique. Mais on ne peut pas démontrer qu'il faut adhérer à l'absolu transcendant ou à l'absolu immanent on ne peut y adhérer que par une conversion, par un mouvement que l'on peut convenir d'appeler la foi. Et cette foi a besoin d'une révélation. Alors, si vous permettez, je continue, une révélation qui, elle, ne peut être que non rationnelle.
Alors, ce qui est bien différent de dire rationnel. Hein.
Voilà. Bon, rationnel, bah, c'est ce que l'on peut démontrer, vrai ou faux, et vérifier de manière, sinon expérimentale, du moins sur des faits. Irrationnel, bah, c'est le contraire, c'est qu'on peut démontrer être faux. Le non rationnel est pour moi, il n'y a pas de mot malheureusement qui, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé, donc je dis non rationnel. C'est ce qui est plausible, c'est sans que l'on puisse démontrer ni que c'est faux, ni que c'est vrai. Dieu existe, on ne peut pas le démontrer, parce que l'absolu peut être immanent, ou bien ça peut être un absolu séculier, mais on ne peut pas non plus démontrer qu'il n'existe pas. Par contre, on peut y croire ou ne pas y croire. Mais à partir du moment où vous avez une révélation qui donne, si vous voulez, de la chair et de la substance à une religion vraie en ce sens où elle se réclame d'un absolu rationnellement, métaphysiquement rationnel, on ne peut plus dire n'importe quoi lorsqu'on cherche à expliciter cette révélation. Autrement dit, si vous adhérez au christianisme, je simplifie de manière abusive, si vous voulez, l'incarnation du Christ, la Trinité, tout cela, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Donc il y a une rationalité que j'appelle exégétique, qui prend comme postulat les éléments fondateurs d'une révélation et qui en tire, par le raisonnement, les conséquences. Alors, à partir du moment où vous avez une rationalité, ben vous avez une irrationalité. Donc, il y a des religions vraies ou fausses, celles en particulier qui sont éclectiques, qui essayent de faire la synthèse. Il n'y a pas de synthèse entre les deux métaphysiques fondamentales, d'une part, et d'autre part, celles qui interprètent mal, irrationnellement, les données de la foi. Vous m'avez suivi jusqu'ici ?
Je pense vous avoir suivi, ce qui signifie, puisque vous utilisez comme... c'est quel mot lui donner, la métaphysique comme approche intellectuelle pour juger des religions, que penser des méthodes ou des démarches qui utilisent d'autres types d'outils ou de raisonnements d'autres natures.
Bon, ça vous demanderez à ceux qui utilisent d'autres démarches. Je suis un homme de science. Enfin, un homme de science est un chercheur de vérité. Et pour trouver la vérité, il faut des hypothèses, on en déduit des propositions et on essaye de les vérifier à partir des faits. Et donc ma construction, qui je le reconnais est compliquée, peut effectivement être testée sur les faits contenus dans la matière historique. Est-ce que effectivement on constate, la documentation nous révèle qu'il y a deux religions fondamentales, bien entendu transcrites dans un très grand nombre de particularisations, ça nous en sommes d'accord, mais fondamentalement, en particulier si vous regardez en Inde, vous avez le sentiment d'une prolifération infinie, enfin, de manifestations religieuses, mais quand vous y regardez de près, vous avez toujours ce point fondamental d'un absolu qui ne change pas, qui est là, et du contingent qui a quelque chose de très peu substantiel, enfin d'évanescent, de contingent tout simplement. Alors que du côté à l'ouest de l'Indus, alors ça c'est mon... C'est un problème qui me fascine, mais c'est un problème à la fois sociologique et historique, et pas du tout métaphysique. C'est un dieu créateur. Alors, un dieu créateur, ça veut dire quoi ? Il a fallu des siècles, même des millénaires, pour arriver à la définition de ce qui nous paraît, nous qui sommes imprégnés, si vous voulez, de culture chrétienne, si vous voulez, ou islamique pour certains, comme allant de soi, c'était une création ex nihilo. Eh bien, ça n'apparaît de manière parfaitement définie, claire et consciente, pour les théologiens évidemment, qu'au deuxième siècle de notre ère, dans des cercles gnostiques et chrétiens. chez Irénée de Lyon, par exemple, est une des premières expressions de cette idée de création ex nihilo. Toutes les autres traditions antérieures où il y a une création, c'est en fait une mise en forme d'une matière informe, si vous voulez, ce qui est tout à fait différent.
Ce que j'ai cru comprendre également, c'est que cette rationalité, fut-elle interne au fait religieux, à cette disposition d'esprit, suit la révélation plutôt qu'elle ne la précède. C'est-à-dire que cet effort de rationalisation du dispositif de mise en forme est postérieur.
Oui. Et puis alors là, bon, la documentation révèle qu'il faut à peu près 3 siècles. Pour savoir ce qui a été révélé de manière à peu près solide. La théologie chrétienne, c'est, enfin, du 1er siècle, on n'a pas grand chose, pour ne pas dire rien du tout. C'est bien en plat, 3e siècle, oui, ou surtout 4e siècle, si vous voulez, il faut 3 siècles. L'islam, au départ, disons que c'est peu documenté, il a fallu 3 siècles pour le doter, enfin, d'un contenu cognitif développé, solide, plus ou moins cohérent, avec des divergences considérables. Enfin bon, c'est une affaire très compliquée, mais que l'on connaît assez bien à partir du 2e, 3e et 4e siècle de l'Égypte.
Vous abordez ce processus de construction. Alors, est-ce que vous nous en rappelez peut-être les phases? Vous dites qu'à un moment, il y a toujours une révélation. Ça, c'est
oui,
une obligation. S'il n'y a pas de révélation, il n'y en a pas.
Non.
Il n'y a rien d'autre.
Non. Pour ce qui est de ces religions à vocation universelle. Alors bon, c'est la tradition juive, c'est le Christ, c'est Muhammad, c'est Bouddha. Alors ces personnages, bon, alors ça c'est un problème d'histoire, enfin d'historiographie, enfin, que s'étend sur eux, que disent les documents, quelle est, comment dire, la proportion de réalité et de développement plus ou moins légendaire. Ça c'est une affaire d'exégèse, d'ailleurs, et qui est non seulement légitime, mais qui me paraît indispensable pour toute religion, enfin, qui veut être vraie. Enfin, et parce que je crois que, et du moins c'est ce que j'ai essayé de démontrer, que les religions ne sont pas pure divagation, si vous voulez, de la sensibilité humaine ou de l'irrationalité humaine, non. Il y a des fondements rationnels plausible que l'on peut, auquel on peut adhérer, à condition tout de même de le suivre d'une manière suivie, si vous voulez, et d'éviter le plus possible l'irrationalité qui guette tout ce qui est humain.
S'il y a donc une vérité religieuse, il y a nécessairement des erreurs religieuses. Est-ce que vous pouvez en décrire quelques-unes ou en faire une typologie?
Je crois que l'erreur religieuse fondamentale, une fois les religions vraies révélées et développées, si je puis dire, conformément à leur vocation profonde, il y a toutes les tentatives éclectiques de conciliation entre les deux interprétations de l'absolu. Du côté oriental, si vous voulez, de l'absolu immanent, la tentation est presque irrésistible de faire émaner les contingents de l'absolu. Et à partir du moment où ils émanent, ils peuvent retourner à l'absolu. C'est pas ce que dit le Vedanta, par exemple. Il n'y a pas d'émanation, c'est que nous sommes l'absolu. Nous sommes l'absolu, nous l'ignorons. Mais si on nous l'enseigne, si vous voulez, il y a des pratiques qui permettent, si vous voulez, de finir par s'identifier à l'absolu que nous sommes. Donc on ne retourne pas à l'absolu, nous sommes déjà l'absolu. De même, toutes les tentatives pour combler le fossé infini, infranchissable, entre un Dieu créateur et les créatures, en introduisant toute une série de degrés intermédiaires de plus ou moins grande consistance en termes d'absolu, ou inversement de non-consistance en termes de contingent, c'est toute la tradition en particulier néoplatonicienne qui me paraît fausse de fondation. Alors, ça donne lieu à des productions qui peuvent être fascinantes par l'imagination de ceux qui les produisent. Moi, mes deux exemples préférés, c'est Proclus, enfin, du côté occidental. Je sais pas si vous avez lu la théologie platonicienne, je vous le recommande, si vous avez envie de vous divertir, ça vaut le coup. D'un côté, et puis du côté musulman, il y a Ibn Arabi, qui est pas mal aussi, et puis toute la tradition chiite du XVIIe siècle, que Henri Corbin nous a rendu familière en l'identifiant d'ailleurs avec la tradition chiite. Les chiites ne sont pas tout à fait d'accord avec cette interprétation. C'est un courant, mais un courant néoplatonicien à peu près explicitement, qui se réclame de la théologie dite d'Aristote, qui sont notamment des morceaux choisis de Plotin. Plotin est le fondateur, génial bien entendu, du néoplatonisme, mais à mon avis, ça ne tient pas la route métaphysiquement.
Pour quelle raison? Parce que ça.
Mais parce que on ne peut pas combler l'abîme entre l'absolu et le contingent. L'absolu est
irréconciliable.
Et tout porte sur le rapport, si vous voulez, mais vous ne pouvez pas. Et donc, ça va très loin, si vous. Et on pourrait en discourir longuement. Une bonne partie de la mystique, en particulier du côté Asie antérieure et Europe, verse très facilement dans cette illusion qu'on peut finalement devenir Dieu. Non.
En gravissant les échelons, peu à peu.
Voilà, oui. Si vous prenez Denis le pseudo-aéropagite, Denis l'aéropagite pour simplifier, tout de même. et de fait, l'Église n'est pas très, très, très favorable à ce genre de discours. Ibn Arabi pousse extrêmement loin la possibilité d'atteindre des stades de densité ontologique, si vous voulez, où on ne devient pas Allah. Ça, c'est pas possible, tout de même. Mais enfin, tout de même, on n'en est pas très loin. Bon, et tout cela est fort suspect, je crois. Et devrait être suspect, et l'est aux yeux des théologiens qui ont une vue plus saine de la révélation dont ils se réclament et qu'ils essayent d'expliciter.
Donc, si je ne m'égare pas moi-même, votre ouvrage vous mène à une forme de condamnation ou de rejet de toute forme de relativisme en matière religieuse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bricoler sa petite religion dans son coin au gré de sa sensibilité, mais obéir à un certain nombre de critères pour rester une religion sous peine de verser dans soit l'idéologie, soit dans la superstition. Comment séparer ces différents phénomènes?
On peut dire ça, mais c'est ce que je crois. Donc il y a des vérités religieuses, il y a des erreurs religieuses, il y a des extravagances religieuses, il y a des authenticités religieuses. Mais
Dieu sait s'il y en a, je veux dire.
Oui, mais il n'y a pas que du religieux. Ça c'est une erreur, si vous voulez, qui est très facilement commise par ceux qui adhèrent à une religion, c'est que les non-religieux, moi je les appelle les séculiers, parce que le vocabulaire est biaisé, athée, ça colle pas, si vous voulez. Il y a des interprétations séculières des fins dernières, de l'éthique, de la condition humaine, qui sont parfaitement cohérentes, sans la moindre référence à un absolu qui serait extérieur au monde de la contingence. Et donc, je crois y avoir insisté au tournant de telle ou telle page, là où les voies religieuses sont une ou des voies, pas parallèles, mais que l'on peut suivre, mais il y en a une autre qui est radicalement différente, qui n'est pas davantage démontrable, mais qui, étant cohérente, peut donner entière satisfaction à qui recherche un sens à la vie et à l'existence humaine, et d'une manière générale au réel. Mais nous n'avons aucun moyen de savoir laquelle de ces trois interprétations, séculière ou religieuse, immanente ou transcendante, est vraie, parce que c'est situé au-delà de l'horizon cognitif humain. Tout cela me paraît parfaitement orthodoxe. Enfin, parce que seul Dieu, s'il existe, peut savoir ce qu'il en est. Alors, comment savoir? Ça nous intéresse tout de même. C'est extrêmement simple. Il suffit de mourir.
Un peu de patience et tout voilà. Doit s'arranger.
Donc, ça...
Ou alors nous saurons que nous ne saurons, nous ne savons pas. Mais, non, mais ce sera une réponse aussi, probablement. Une autre idée qui nous vient à la lecture de votre ouvrage, si chacune de ces possibilités, voilà, on ne peut pas déterminer laquelle est vraie, mais chacune a une logique propre interne qu'il ne faut pas bousculer. Mm-hmm. Qu'en est-il des initiatives œcuméniques, par exemple, lorsqu'elles vont au-delà du dialogue, qu'on puisse dialoguer entre gens différents, c'est ça qui est fructueux. Mais qu'en est-il des tentatives syncrétiques ou de débauche de ce qu'on peut appeler une tradition primordiale?
Tout ça me paraît des extravagances. Alors, il faut distinguer l'œcuménisme. Si les différentes écoles, si j'ose dire, chrétiennes, se réunissent pour essayer de trouver un terrain commun, bon, ça me paraît parfaitement légitime, même du côté bouddhiste. Enfin, d'autre part, si on dialogue pour éviter de s'étriper, bon, c'est une bonne chose.
Ça, c'est bien, de la diplomatie plus qu'autre chose.
Hein. Voilà, ou bien pour se convaincre chacun que les choses étant ce qu'elles sont, métaphysiquement, personne ne peut démontrer qu'il est dans le vrai, les choses étant ce qu'elles sont politiquement, à savoir que ces questions relèvent du privé et de l'intime, il est bon de discuter entre soi pour se persuader que les autres ont parfaitement le droit d'être ce qu'ils sont et de défendre leur position, à condition de ne pas essayer de l'imposer aux autres par la force. Alors, ça ne va pas de soi, parce que lorsqu'on a la foi, voilà. Et donc, c'est un effort toujours renouvelé. Par contre, si l'œcuménisme est ou prétend aller dans le sens que vous avez indiqué, c'est-à-dire de trouver la synthèse ultime à laquelle on pourra adhérer, je crois que c'est faux, purement et simplement. Et que non seulement c'est faux parce que c'est métaphysiquement impossible, mais en plus ça me paraît dangereux pour les religions, les religieux plus exactement, qui s'y laissent prendre, parce que ça ne peut résulter que une adhésion au plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire l'absolu existe, par exemple. Oui, mais
l'absolu... C'est un peu court pour construire une liturgie.
Mais... Voilà. Est-il personnel ou impersonnel? Alors là, ça commence à diverger. Voilà. Et donc, je crois que il est bon également de dialoguer précisément pour savoir d'une manière plus précise, plus fine et plus authentique ce qui nous distingue des autres. Et donc, tout cela est fort délicat. Et l'œcuménisme est un objet ou une matière fissile à manier avec précaution. Voilà.
Deux autres questions me viennent. Je commence par l'une et ensuite on reviendra à la seconde. Que vous inspire aujourd'hui les formes, les mouvements au regard de ce travail, votre travail, qui assimile peu ou prou la religion à quelque chose de l'ordre du sensible, de la personnalité, du... Bon, est-ce que c'est hors champ, du coup?
Non, il faut pas, au contraire, je le dis explicitement, enfin, la religion et les religions ne sont pas des systèmes cognitifs. Il y a des éléments cognitifs, mais c'est pour l'essentiel, ça relève de l'agir. C'est-à-dire que cela mobilise la nature humaine tout entière, la sensibilité en particulier, pour essayer de se hisser, si vous voulez, quoique contingent, à une approximation de l'absolu dans un cas, ou à, comment dire, le fait de finir par s'identifier à l'absolu que l'on est déjà, si vous voulez. Et donc, pour l'essentiel, les religions telles qu'elles doivent être pratiquées ne consistent pas à philosopher, mais à prier, à s'imposer un certain nombre de contraintes, à suivre les prescriptions. Enfin, c'est une existence, enfin, qui est imprégnée, imbibée, guidée, soulevée par l'adhésion à une foi. Et donc, il y a un élément cognitif, bien entendu, mais me paraît tout à fait secondaire. Et donc, bon, ça répond à votre question, la sensibilité. Mais alors, ça ne peut pas être que la sensibilité. Donc, c'est die Schwärmerei en allemand, c'est-à-dire le fait de... j'éprouve des sentiments, si vous voulez, d'exaltation qui me hissent au-dessus de moi. Alors non, ça, c'est rien, ça. Ça doit être tout de même appliqué à quelque chose de défini et qui conduit quelque part.
Ça nous mène à la seconde question, qui était celle de la place du religieux et de la religion dans la société, dans son ensemble, par rapport aux autres secteurs, ordres, je ne sais comment les définir, de la vie humaine. Arrivé au terme de vos réflexions sur les erreurs et les vérités religieuses, quelles sont, de ce point de vue, les erreurs ou les vérités religieuses?
Bon, comment dire, le religieux présente un certain nombre de caractères liés à sa nature, si vous voulez, qu'il fait qu'il peut très facilement être phagocyté par d'autres activités humaines que j'appelle des ordres. En particulier, le politique, pour justifier, par exemple, le pouvoir. Donc, la fondation, il y a des millénaires, des régimes hiérocratiques, se réclamer du religieux, était une tentation irrésistible, enfin. De même, une tentation irrésistible est de confondre une société et une communauté religieuse. C'est la religion durkheimienne, si vous voulez, c'est la société qui s'adore elle-même ou qui se contemple elle-même du point de vue de l'absolu. C'est une réalité. Ce sont des réalités. Alors, aujourd'hui, nous avons, et j'avoue que j'y ai en partie succombé quand j'étais jeune, succombé à l'illusion ou à l'hypothèse que la modernité conduisait à la sécularité. Et donc que la religion ou les religions étaient destinées à être évacuées. Alors, je n'ai jamais adhéré à ça. Mon hypothèse depuis 50 ans au moins est la suivante, c'est que la modernité contraint les religions à se concentrer sur ce qu'elles ont de religieux et à se débarrasser de tous les phagocytages, de tous les parasitages venus du politique pour l'essentiel, mais pas seulement. Une bonne partie des religions était consacrée à guérir les maladies. Avant les médecines modernes, et encore aujourd'hui, tout de même les saints, enfin bon, on a mal aux reins, on a mal, etc. Pour faire pousser le blé, enfin, pour eux. Donc il y a toute une série, je dirais tous les ordres de l'humain peuvent bénéficier, si vous voulez, du secours de l'absolu pour gagner la réussite, si vous voulez. Alors, mon hypothèse, c'est que la modernité, dans sa logique, si vous voulez, conduit à éliminer tout cela ou à le dénoncer comme illégitime et inauthentique. Mais ça ne veut pas dire que c'est effectivement éliminé. C'est là que je pense avoir commis des erreurs d'interprétation il y a plusieurs dizaines d'années. Ça peut revenir, si vous voulez, du fait de l'irrationalisme humain, mais ça ne peut revenir que sous une forme explicitement idéologique, au service de telle cause qui n'est pas religieuse. Alors bon, c'est évident pour l'islamisme, mais c'est également évident, par exemple, au Sri Lanka ou en Birmanie à l'heure actuelle, où il faut le faire tout de même, pour transformer le bouddhisme, si vous voulez, en idéologie de l'oppression de certains qui ne sont pas bouddhistes ou pas de bons bouddhistes. Vous avez également une région aux États-Unis, par exemple, où c'est essentiellement, disons, un drapeau ou un rite social. Ça devient très facilement, lorsque les circonstances s'y prêtent, un fanion idéologique. Enfin. Et ça peut très mal tourner, enfin, ça peut aller très loin. Enfin,
et donc, toutes ces façons de faire sont, si je vous comprends bien, des erreurs religieuses, au sens où non seulement peut-être que ce sont
des... Pas des erreurs, des corruptions.
Oui.
Ou des perversions. Parce qu'il y a erreur, si vous dites 2 plus 2 égale 5, c'est une erreur, si vous voulez. Donc, par exemple, le néoplatonisme, je crois que c'est une erreur intellectuelle, si vous voulez. Faire de la religion, enfin, la justification de massacre, si vous voulez, c'est pas une erreur, c'est une perversion. Enfin. Et c'est pas fait pour ça.
C'est-à-dire que le mouvement de sécularisation que vous décriviez aurait pu aboutir, plutôt qu'à évacuer la religion, à lui restituer sa pureté initiale ou essentielle.
Oui. Ça a été mon interprétation spontanée, enfin, de tous les événements des années 60 et du Concile de Vatican II pour ce qui est du catholicisme, si vous voulez, c'est que ça a vidé les églises. Mais ça vidait les églises qui étaient fréquentées par ceux pour qui c'était un rite social. Et où l'authenticité de la foi, la profondeur de la foi était pour le moins discutable. Enfin, j'en ai des expériences personnelles dans mon enfance. Et donc, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt une bonne chose. Alors bon, c'est pas très largement reçu, mais peu importe. Enfin, j'insiste sur le fait que je suis un homme de science. Moi, je ne défends aucune position religieuse.
C'est très perceptible en lisant vos ouvrages.
Et voilà. Et je pense qu'il est impossible de savoir en me lisant quelle est ma position personnelle, si vous voulez, dans ce domaine. J'essaie d'expliquer les faits, et par conséquent, tout ce qui est irrationnel, tout ce qui est pervers, tout ce qui est corrompu, est dans la matière historique. Et donc, il faut trouver moyen de l'expliquer. L'exemple, ce qui se passe à l'heure actuelle avec le djihadisme, etc., est un exemple topique, si vous voulez, mais nous avons des exemples anciens, c'est les guerres de religion au XVIe siècle en Europe, n'étaient pas mal non plus. Enfin, bon, faut pouvoir les expliquer. Ça n'a rien à voir avec les justifier. Enfin, on explique, voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Tout à fait. Et je vous confirme qu'il est parfaitement impossible d'imaginer si vous avez la foi ou non, si c'est le cas de quel type de spiritualité vous pratiquez ou aurez votre faveur. C'est absolument impossible. Ce qui est certain aussi, c'est que, et à bien des égards rafraîchissants, c'est que au-delà de la dénonciation souvent un petit peu facile de telle ou telle erreur commise, pas religieuse, mais commise par des représentants des religions, vous ne vous privez pas non plus de tourner en ridicule ceux qui les attaquent de façon également un peu facile. Ouais. Voilà. L'erreur en matière religieuse étant partagée à la fois par ceux qui en pratiquent et par ceux qui croient pouvoir s'en absoudre d'un revers de main.
Si on a une seconde encore, vous avez un merveilleux exemple récent de Dawkins, qui est certainement un très grand savant spécialiste de l'évolution, et qui se fonde sur les théories scientifiques pour démontrer que Dieu n'existe pas. Non, simplement, l'évolution du vivant n'a pas besoin de l'hypothèse d'une création divine. Ça ne démontre rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. Autrement dit, c'est stupide.
C'est hors de propos. En fait.
Voilà, et on est étonné qu'au XXIe siècle, il y a encore des gens très intelligents, beaucoup plus savants et intelligents que moi, qui tombent dans ce piège, enfin, cognitif.
Il y a tout un certain nombre. J'en ai beaucoup aimé deux. Ceux qui disent, exemple, les religions ne sont pas d'accord entre elles, ça prouve bien qu'elles sont fausses. Mm-hmm. Où tout le monde, partout sur la surface de la Terre, il y a des religions, donc ça prouve que ça doit être vrai.
Voilà. Deux propositions fausses.
Alors que, comme votre ouvrage le démontre, la démarche religieuse, la quête d'absolu liée à l'humanité, est une démarche bien plus ardue, un chemin bien plus escarpé.
Oui, oui. C'est ce que disent toutes les grandes religions authentiques, et je dirais même d'une manière générale, enfin, somme toute, devenir humain n'est pas si facile que ça, il faut des efforts, enfin. Si c'était facile, ça se saurait, tout de même, enfin. Et puis, il n'y aurait pas les histoires humaines pour démontrer que c'est pas facile, et que la plupart du temps, ça tourne mal. Enfin.
Je crois que c'est ce que vous dites en conclusion. L'hominisation est une chose, l'humanisation en est une autre.
Voilà, oui. Ah ben ça pourrait être l'objet d'une autre conversation pour quelle est la différence entre hominisation et humanisation.
Eh bien, c'est bien volontiers que nous vous réinviterons. Dans l'intervalle, j'invite nos auditeurs à préparer leur quête d'absolu en se plongeant dans votre ouvrage pour éviter les nombreux écueils qui les menaceront sur ce chemin, quelle que soit bien entendu la voie qu'ils choisissent, celle du devenir, de l'être, elle-même divisée entre l'immanence et la transcendance, à chacun de faire son chemin certainement.
Exactement, vous avez tout compris, je vous félicite.
Merci beaucoup et à bientôt pour une émission sur hominisation et humanisation.
Oui, non, volontiers.
Merci beaucoup Jean Béchler, je rappelle quand même de façon plus précise les coordonnées, les références de l'ouvrage par Jean Béchler, Enquête de l'absolu, vérité et erreur religieuse, aux éditions Hermann dans la section philosophie. Merci à vous.
Merci pour m'avoir invité. Thank you.